Bien, on m'a demandé, avant de commencer, de vous signaler les plans finaux, le bâtiment. On vous invite à prendre une copie sur la table en arrière, ce que Guillaume était. C'est intéressant, au moins on a dans les mains les choses. Pas d'exception. Ceux qui l'ont catché. Qui a déjà fait des voyages de l'âge? Savez-vous ce que c'est un voyage de l'âge? Va à main, là, je veux savoir qui que c'est. Tu sais, tu arrives avec l'épicerie, là, au lieu de prendre le temps de prendre une coupe de sac à fois, t'en prends quatre. Un qui est en train de se tasser sur un côté, puis l'autre est en train de perdre des ingrédients. Et tu te ramasses avec un fiasco. Et là, tu te dis, ouais, je voulais sauver de l'énergie, sauver du temps, sauver aussi, me sauver de tâches que j'aime pas, c'est-à-dire ramasser mes gâchis. Et puis, ça a tout foiré. Ça arrive-tu dans la vie, ça, des affaires de même arrivent? Et vous savez, dans le sens, ce matin, mon message parle du défi. Un défi. Le défi de la loi du moindre effort. Quelqu'un me dit dernièrement, il dit, Michel, tu dois être content à retraite. Il dit, ben non, je suis pas content pendant tout. Capable de prendre de vacances. Fait que c'est pas si le fun que ça. Plus de vacances. Le défi de la loi du moindre effort. Savez-vous ce que c'est la loi du moindre effort? C'est quelque chose qui nous attire tranquillement. Par contre, ça a une certaine logique. L'eau suit la loi du moindre effort. Vous avez un problème d'eau? Regardez la place la moins protégée, la moins élevée, trouvez la plus penchée, la plus basse, vous allez trouver par où l'eau rentre. C'est la loi du moindre effort. L'eau, lorsqu'il y a un effort contre l'eau, elle arrête. Mais à un moment donné, elle devient plus pesante, et là, c'est moins d'effort rester là que partir, donc ça rentre dans le sous-sol. Et là, tu sors ta mop, puis là, tu oublies la loi du moindre effort. Tu travailles fort. La loi du moindre effort est dans la nature aussi. Mais moi, la loi du moindre effort, c'est plutôt une annonce qui m'a frappé. C'est le droit à la paresse. Quand quelqu'un dit qu'on est dans une société où est-ce qu'on a le droit d'être paresseux, c'est ça mon thème ce matin par rapport à la loi de la paresse. Vous savez, hey, vous avez placé votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Wow! Hey, assoyez-vous ici, là, puis faites plus rien. On est tellement habitué de dire aux gens, c'est gratuit, salut, puis on a raison. C'est par la foi seule en Jésus-Christ, puis on a raison. Puis on oublie de dire que la vie chrétienne est une vie merveilleuse, une belle aventure, ou ce que Dieu, Éphésiens 2:10, dit qu'il a préparé d'avance des œuvres pour nous autres. Pas pour gagner notre ciel, mais parce qu'on va au ciel. Parce qu'on va à la présence de Dieu. Et vous savez, le droit à la paresse, bien sûr, vous pouvez être assis là et dire, ben là, c'est pas toi qui vas me dire combien d'énergie je vais dépenser aujourd'hui. Non, ton corps te le dit, facilement. Et comme je disais à Diane, deux tours de piste pour moi au parc Lavandry, c'est assez. Le troisième, je craque. Et je défie la loi du moindre effort à chaque fois que je sors mon vélo. Je défie la loi du moindre effort à chaque fois que moi et Diane, on fait le tour du piste de la Violette. Je défie. J'ai rencontré mon médecin il y a quelques mois. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une habitude de me peser seulement chez le médecin. Je ne veux pas me stresser. Tu sais, dire, ah, regarde, je fais toujours attention, je travaille, d'après moi, fort. Puis avec un petit sourire en coin, mon médecin, Hélène, me dit, Michel, tu as perdu une livre. Il dit, quoi? Une livre? Hey, là, tu te dis, ça n'a pas de sens. Tous les efforts que j'ai faits, elle dit, tu as dû faire des efforts à sa fourchette aussi. Vous savez, on a toute notre interprétation de la loi du moindre effort, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Gérer l'énergie que nous avons. Je réalise ça de plus en plus. Quand j'avais 20 ans, ça me prenait 2 secondes de sortir de chez moi. À 66 ans, ça me prend... J'ai calculé, je faisais 3 minutes et demie à peu près, 4 minutes. Puis des fois, ça peut me prendre 15 minutes parce qu'il faut que je vienne prendre ma douche avant. Puis c'est pas d'enfer qui arrive. Mais ça change. Avez-vous remarqué que ça change? Notre capacité change. Puis si vous pensez que ça vous arrivera pas parce que vous êtes téméraire et jeune, bien n'oublions pas que les proverbes nous disent quand on est jeune, on est comme l'herbe verte. Hein? L'herbe, la belle herbe verte. Et à un moment donné, l'herbe, savez-vous ce qu'elle fait? Elle jaunit, elle penche. Puis elle perd son éclat. Quand tu as 12-13 ans, tu te relèves les manches pour montrer tes muscles puis battre les autres. Puis quand tu arrives plus vieux, tu t'aperçois que tu te caches pour ne pas te faire battre. Parce que tu n'as trop battu quand tu étais jeune. C'est arrivé à un de mes oncles. Philippe ici, de qui je parle. Donc, ce matin, c'est un peu ça, la loi du moindre effort, le défi de la loi du moindre effort. Puis je vous dis, là, j'ai pris un texte assez qui nous donne un vrai défi, là. Qui n'est pas facile, mais je vais quand même glaner dessus ensemble avec vous, parce que je veux le faire avec vous, au lieu de s'en aller comme ça. Vous savez, dans notre zone, et c'est ça qui est important, dans notre zone de moindre effort, nous risquons de mener une vie bien médiocre. Pensez à Lot et Abraham. Il y a de la chicane dans la famille. C'est pas correct. Abraham dit à Lot, choisis. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Puis, il y a une petite phrase qui dit que Lot regardait les plaines de Sodome et Gomorrhe. C'était fructueux. C'était merveilleux. Et prospère de vivre là. Il a choisi la loi du moindre effort, les plaines de Sodome. Abraham a regardé les montagnes, et comme il le dit, il a pris des montagnes rugueuses, les roches, là où c'est difficile y vivre. Et nous connaissons tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe, de Lot, son épouse, la destruction de cette ville, et on voit qu'Abraham a pris la voie de l'effort. Mais ce qui est intéressant, c'est le cœur de Lot. On peut nous proposer, comme à Lot, toutes sortes de choses aujourd'hui qui vont aiser notre aller et venir. On peut nous proposer des choses moins chères, des choses meilleures, des choses illégales. En passant, savez-vous que les cigarettes illégales, les cigarettes indiennes qu'on appelle, sont en pleine révolution. C'est le moindre effort, parce que si je paye trop cher pour mon paquet de cigarettes, ça me coûte trop cher. Le moindre effort, c'est de prendre des illégales. Voyez-vous? Mais la vraie décision, ce serait d'arrêter de fumer. Ça serait un effort à faire, qui serait payant. Alors, les efforts, c'est toujours quelque chose qui est à faire, qui n'est pas facile. Et dans cette zone-là de... Puis je parle comme ça, là, puis... Je parle de faire les efforts, là. On va voir dans le texte biblique tout à l'heure, là. Faites tous vos efforts. Mais je pense à Gédéon. Gédéon, il dit, je suis le plus pauvre, le plus petit de ma famille. On est la famille la plus misérable, probablement, et pauvre dans toute la place, à Madinat. Et ses ennemis qui veulent nous assaillir, c'est moi qui va délivrer Israël. C'est moi qui va faire ça. Moi, le plus petit. Et n'oublions pas cette phrase dans ce défi de la loi du moindre effort que l'ange de l'Éternel a donné à Gédéon. Va avec la force que tu as. Alors, lorsqu'on parle de défier la loi du moindre effort, on ne parle pas de surmenage, de burn-out, d'aller au-delà de nos forces. 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit ceci, « Les diverses grâces de Dieu qu'on a à gérer, que chacun de vous mette au service le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il s'arrange de rester entre les deux couverts de la Bible, et si quelqu'un remplit un ministère, ou un diaconéos, qui est marqué là, un service, que ce soit selon la force que Dieu vous a donnée. » Savez-vous pourquoi? Parce que tout ça doit servir afin que Dieu soit quoi? Glorifié. Alors, comprenez-moi très bien ce matin, lorsque je parle de la loi du moindre effort qu'on doit défier, ce n'est pas de se faire mourir à coups de fouette dans le dos, ce n'est pas d'aller au-delà de nos capacités, mais au contraire, d'y aller avec ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on est responsable de gérer ce que Dieu nous donne. Responsable de gérer le don ou les dons que Dieu nous a donnés. Responsable de gérer notre vie. Responsable de gérer notre famille. Responsable de gérer notre argent. Responsable de gérer notre énergie. Responsable devant Dieu. Parce que 1 Corinthiens 5:10 nous dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour rendre compte du bien et du mal. Vous savez, on aime ça parler de l'enfer, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais comme chrétiens, si on parlerait du fait qu'on va rendre compte à Dieu de notre administration, des talents, de l'argent, parce que le talent, c'est l'argent dans la parabole que Dieu nous a donné. Rendre compte de notre emploi du temps. Et oui, il y a un temps pour se reposer, puis un temps pour prendre des vacances, comme je disais. Excepté pour moi, parce que moi, je suis en retraite, t'en prends plus. Bon. Donc, tournez dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors, si vous oubliez tout ce que je dis ce matin, là, souvenez-vous juste de cette phrase-là. Tournez dans la parole de Dieu ce matin. Souvenez-vous de ça. OK? Tournez dans la parole de Dieu dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, 3 à 11. C'est le texte qu'on va lire ensemble. Comme je vous dis, je vais le faire différemment des autres fois. On va regarder ça ensemble, puis on va réfléchir ensemble. Parce que dans le fond, matin, là, je me suis dit, j'ai rien à dire, moi. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit à moi? Puis ce que je vous partage, je me l'ai partagé des dizaines de fois dans mon cœur depuis un an, depuis ma retraite. Alors, comment défier la loi du moindre effort? Et à quelque part, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen du sang, hein, au moyen, non, où tu gardes, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Vous avez vos bibles ouvertes? Ceux qui ont des bibles, ceux qui n'ont pas, regardez bien. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Alors, arrêtons de lever la main au ciel et de dire à Dieu, « Dieu, c'est ta faute. » Si j'ai une vie médiocre de prière, si j'ai une vie de médiocre de lutter contre le péché, si je regarde en entour de moi puis je blâme Dieu ou les autres de ma propre vie, arrêtons là. La parole est claire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le mot piété, c'est une ferveur envers Dieu. la vie éternelle, la vie que nous vivons sur cette planète Terre. Donc, on a parlé ce matin, dans lequel il n'y a pas question qu'elle soit détruite, cette vie spirituelle-là, parce que le Seigneur nous garde dans sa main. Par la connaissance de celui qui nous a appelés, qui nous a appelés, vous êtes appelés de Dieu, choisis, précieux pour Dieu. Et vous savez, à quelque part, si on ne réalise pas qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, bien, savez-vous ce qui va arriver? Si vous pensez que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, déjà, vous allez passer votre vie chrétienne à le chercher. L'Esprit Saint est en vous. Dieu vous a équipé. Dieu vous a appelé par sa divine puissance afin que vous soyez l'Église de 2014, assemblée physiquement ici et un jour assemblée spirituellement avec nos frères et nos sœurs. Il nous a tout donné. Et ça veut dire que notre première position en Jésus-Christ, ce n'est pas une position de courir en faisant des bonnes œuvres. Notre première position en Jésus-Christ, c'est assis dans les lieux célestes en Christ. C'est d'être assis. Éphésiens 2, 1 et 2 nous parlent qu'autrefois on était assis dans les ténèbres, nous parlent qu'autrefois on suivait le train de ce monde, le prince de ce monde. Mais maintenant, à cause de la grâce de Dieu, on est assis avec Jésus-Christ. Il nous a tout donné. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, gérons ce que Dieu nous a donné, ce que vous savez de Dieu, ce que vous savez de Jésus-Christ, ce que vous savez de la vie chrétienne, ce que le Seigneur vous a montré dans votre vie, soit par l'épreuve, soit par la lecture, soit par l'étude, soit par l'exemple d'un autre, d'un frère ou une sœur. Servez-vous-en. Servez-vous-en. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Wow! Celle-ci nous assure, verset 3 qu'on vient de regarder ensemble, le verset 4 commence par une assurance. Une assurance qu'on a des belles promesses. Pas les promesses qu'on s'invente dans notre tête, des promesses de la parole de Dieu. Des promesses que Dieu nous donne, afin qu'on devienne ensemble, mariés à Jésus-Christ, hommes et femmes, un seul corps, le corps de l'Église qui avance, et on est des participants en étant les représentants de Dieu sur cette terre. On est des prêtres et des prêtresses pour Dieu, en amenant la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Et on travaille à tout cela. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On fuit la corruption. On fuit ce qui pourrit, ce que Dieu n'aime pas. Dieu est un Dieu pur, sachons-le, qui existe dans le monde par la convoitise. Et mes amis, j'ai réalisé comment j'étais un gars qui convoitait en rentrant sur Costco l'autre jour. Je reviens pas les belles affaires qu'il y a là. Ah, y a-t-il des affaires qu'on a besoin, hein? On dirait que c'est meilleur de qualité, là, hein, qu'ailleurs. Ils sont là moins chers ailleurs. Mais la convoitise, que ce soit le chien, le chat, la femme du voisin, le skidoo, le char, mes amis, tant qu'on est dans ce corps de chair, on n'a pas fini avec ça. C'est une lutte. C'est un combat. Et si on est dans notre zone du moindre effort, on est vulnérable et très facile à prendre et à paralyser pour le Seigneur. Et c'est pour cela que le défier la loi du moindre effort, c'est justement de saisir ses promesses et de devenir participant avec les promesses de Dieu en fuyant, en vivant une vie chrétienne qui honore Dieu. Ça s'appelle la sanctification progressive. Ça s'appelle notre marche quotidienne. Ça s'appelle que tu n'écris pas des mensonges que tes rapports d'impôts. Ça s'appelle que tu rends à César ce qui est à César. Hein, Pierre? Et Dieu honore cela. Et à quelque part, votre lumière, qui luit dans les ténèbres, vont montrer aux gens. Et là, on dit aujourd'hui, « Ah, les gens ne sont pas intéressés au spirituel, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. » Les gens, là, sont écœurés des religions qui disent qu'ils ont raison. Ils veulent voir la vie spirituelle des gens fonctionner. C'est quand ça fonctionne devant eux, lorsqu'on vit l'Évangile devant eux, que ça parle fort. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir au Seigneur, mais ça parle fort. Et mes amis, c'est tout un défi pour nous, parce que la loi du moindre effort est là. C'est sûr qu'il y a des bons programmes à la TV. J'ai écouté pas mal la TV dans ce temps-ci. J'ai écouté une série de science-fiction. Puis, je me suis aperçu que j'étais en train de me faire avoir. Et c'était épeurant, tu sais. Les heures j'ai mis là-dedans. Ben, après tout, je suis en retraite. Je suis en retraite! Ben ouais. Je prends plus de vacances. Mais, voyez-vous, à quelque part dans tout ça, il y a la promesse, on participe avec Dieu. Comment qu'on participe? En saisissant les promesses, en fuyant la corruption qui existe par la convoitise. On va tous convoiter. Et si on est dans notre zone de la loi du moindre effort, on est plus susceptible, on est plus vulnérable à se faire avoir. Voyez-vous, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Bon, c'est là qui est tricky, là. En premier, je divisais ça en 8. Mais là, en lisant comme il faut le texte, en vérifiant les commentaires, j'ai réalisé que dans le fond, il y a 7 vertus chrétiennes qui ressemblent beaucoup, hein, le fruit de l'Esprit, les 9 résultats de marcher selon le Saint-Esprit, en Galates 5, 22. Ça ressemble beaucoup, mais à quelque part, à cause de cela même, regardez là, à cause de cela même, quoi? À cause des promesses, parce qu'on fuit la corruption, parce qu'on est participant de la nature divine, à cause de cela même, parce que la convoitise, si on suit la loi du moindre effort, est facile et très accessible, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Pas pour être sauvé. Vous comprenez comme il faut, hein? Il n'y a pas personne par 17 qui dit « Ah, on fait des efforts pour être sauvé. » Non, non. Des efforts pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Et arrêter de se plaindre comme Lot dans la médiocrité. Et ça, mes amis, c'est de la peau. C'est de l'huile à bras. C'est difficile. Vous savez, souvenez-vous de le Seigneur quand il y a un jeune homme qui vient à lui. Le Seigneur l'a aimé. Un jeune homme riche. Hein? Le Seigneur, en le voyant, là, il l'a aimé. Hein? Puis tout le Seigneur il dit, « Bon maître, j'ai suivi dès ma jeunesse toute la loi. » Oui. Mais il dit, « Voici l'obstacle qui t'empêche de me suivre. Prends ton argent, là. Donne-la tout aux pauvres. Parce que ton argent est un idole dans ta vie qui t'empêche de me suivre. » Pauvre. Il est parti triste. Voyez-vous, mon idole, votre idole, qui est un obstacle à suivre Christ d'une manière victorieuse, pas la même. Qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu? C'est quoi mon obstacle à suivre Christ, à faire tous mes efforts? Prendre ça au sérieux. Pour que je puisse avoir dans ma vie ces vitamines spirituelles qui fait que la loi du moindre effort est mise au défi. On parle de vertu, de connaissance, de maîtrise de soi, de patience, de piété, de l'amour, l'amitié fraternelle, de l'amour. Philéos, agapéo, là, mais écoutez, on sait tout ça, ces affaires-là, depuis des années qu'on lit nos Bibles. mais comment je fais ça que ce n'est pas si évident que ça dans ma vie? Comment je fais ça que dans ma vie, ça arrive que j'ai des pensées non vertueuses? Il me semble que je ne connais rien dans la Bible. Puis des fois, je perds la maîtrise de moi-même. Une fois, c'est arrivé. Je ne vous le dis pas. La patience. Manquer de patience. La ferveur envers Dieu. Ça peut être bien des affaires. L'amitié fraternelle. Avoir de l'amitié pour les frères qui va me porter à avoir de l'amour. Voyez-vous, ces vitamines-là, ça prend des efforts. Ça prend du contrôle, des efforts. Et c'est pas facile. Regardez, lorsqu'on regarde toutes ces choses-là, là, je les passe assez vite, je viens de voir l'heure, moins 20. Ça nous amène au verset 8. Regardez le verset 8, ce qu'il dit. Car si ces choses sont en vous, OK? Si ces choses sont en vous, les vertus qu'on vient de voir, regardez ce que ça fait. Et ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point, quoi? Oisif ni stérile. Ça, là, oisif et stérile, là, c'est la zone, cette zone qu'on appelle la zone de moindre effort. Où ce que live and let live. Vie et laisse vivre. Touche-moi pas, achale-moi pas, ça va par là. Bon. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir remarqué qu'il ne parle pas de faire des bonnes œuvres, de donner plus d'argent à l'Église, d'être plus spirituel que les autres. Ça ne parle pas de ça. Ça ne nous laissera pas oisifs et stériles. Pourquoi? Pour connaître Jésus-Christ. Et ça, réfléchissez à ça. Là. Vous allez tous me dire que je le connais, Jésus-Christ, moi. Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, connaître Jésus-Christ? On le connaît? Ah oui? Vous êtes capable d'expliquer Dieu, vous? Il y a un témoin de Jéhovah qui me dit l'autre jour, oh, pose-moi n'importe quelle question à propos de Dieu, je les sais toutes les réponses, excepté une. C'est-tu laquelle? Que Dieu n'a ni commencé ni fin. Je ne peux pas répondre à ça. Mais les autres, ils répondaient tout. Il est bon, hein? Mais voyez-vous, connaître Jésus-Christ, c'est d'éteindre sur lui, imitation de Jésus-Christ, son attitude, ses paroles, sa manière qu'il réagit devant l'oppression, sa manière qu'il réagit devant la trahison, sa manière qu'il réagit devant ceux qui font du mal, sa manière qu'il réagit envers ses disciples qui aiment, la manière qu'il corrige, la manière qu'il enseigne, les choses qui nous révèlent à propos du plan de Dieu pour nos vies. Mes amis, la loi du moindre effort nous empêche d'être émerveillés de notre grand salut. Prendre au sérieux l'avertissement. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oublier ses anciens péchés. Ou, si on dirait, considère comme tellement futile ses anciens péchés, non important, que c'est plus grave pantoute. Voyez-vous, il a mis à l'oubli l'émerveillement de son salut en Jésus-Christ. Je l'ai dit depuis des années, ça. Mes amis, lorsque nous perdons l'émerveillement de notre grand salut, on est sur le bord de la médiocrité. Et peut-être plus. À quelque part, si vous trouvez ça exagéré, quelqu'un qui est émerveillé de son grand salut, faites attention à ce que vous pensez. La parole de Dieu est tellement, tellement claire sur l'émerveillement de notre grand salut. Et là, je pourrais arriver avec 7 points qui vous montrent c'est quoi l'Évangile, qui part de la chute au retour du Seigneur. Mais entre parenthèses, on ne fait pas ça, là, il est moins quart. Sachons à quelque part que si dans vos prières, si dans votre dialogue avec Dieu, vous avez perdu votre émerveillement, votre grand salut, perdre la joie de servir le Seigneur. Moi, je l'ai perdu, ça, la joie de servir le Seigneur un jour. C'est pas facile à retrouver. C'est pas facile à retrouver. Mais mes amis, il faut rester émerveillés de notre grand salut qui nous amène, en fin de compte, à faire attention. 3 choses. On devient de ceux qui ne reconnaissent plus les promesses de Dieu. On est l'aveuglement par rapport aux promesses de Dieu. Aveuglement par rapport à qui nous sommes. Qui êtes-vous? Vous allez tout dire, ah, je m'appelle Joe Blow. Non, je veux dire, qui sommes-nous, le peuple de Dieu? Qui sommes-nous, les enfants de Dieu? Qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Qui sommes-nous? On est l'Église que le séjour des morts ne peut pas détruire. On est l'Église qui attend le retour du Seigneur. C'est ça qu'on devient aveugle par rapport à toutes ces choses-là qui nous sommes en réalité. Troisième aveuglement, c'est l'aveuglement sur la souffrance qui accompagne la sanctification progressive. C'est populaire être chrétien ici. Je regardais les sites des chrétiens persécutés. Là. Michel, c'est-tu Michel ou Jonathan qui avait un gilet noir? Là, c'est marqué dans 18 pays. Ah, les deux? OK. C'était marqué dans 16 pays. C'est illégal de porter ce gilet-là. Là. C'est ça? 53 pays. Wow! C'est illégal de porter le gilet qu'il y avait dans 53 pays parce que le salut est marqué dans le dos. Vous savez, mes amis, c'est populaire ici d'être chrétien. On fait une petite religion, puis on peut se contenter de ça d'une manière médiocre. On peut cacher les talents que Dieu nous a donnés. On peut mettre de côté les choses que Dieu nous donne. Investir dans d'autres choses que l'œuvre de Dieu. Notre temps le donner ailleurs qu'à Dieu. OK, oui, on peut avoir des loisirs, mais même moi, quand j'ai du bon temps en vélo, je le donne à Dieu. Tout mon temps est à Dieu. Moi. Quand je fais du vélo puis je marche dans le parc, là, je le fais avec le Seigneur. C'est, à quelque part, là, c'est de gérer nos énergies. La souffrance, c'est ça que je veux en venir, la souffrance qui accompagne la sanctification progressive. Je pense que c'est Rav Chalice, dans son témoignage, quand il s'est levé d'une assemblée, puis il a dit, « Dieu m'appelle en Algérie avec ma petite famille. » Une conviction de Dieu pour aller comme missionnaire. L'assemblée était toute contre lui. Dieu l'appelait à cela. Il a souffert plus de la part des chrétiens que de la part des non-chrétiens. Et pourtant, il s'est rendu par la foi là-bas, hors du système. Tu te souviens, Adamon, hein, dans son témoignage? Il y a de la souffrance à suivre Christ. Si vous pensez que suivre le Seigneur, c'est une assurance tout risque, vous vous trompez. Ce n'est pas que vous avez plus mal aux dents, vous avez plus mal dans le dos, vous avez toujours à avoir un char qui a de l'œil. Pas vrai, ça. En passant, ça devient de plus en plus populaire, ça, l'Évangile d'abondance, ça s'en vient encore, ça. Les années 70, c'était populaire, et là, ça revient tout cela. J'ai le défunt qui disait ça l'autre jour. Et vous savez que si on n'est pas prêt à payer le prix d'une certaine souffrance, on va toujours rester dans notre zone de la moindre effort. Oui. Mais n'oublions pas que le Seigneur ne nous demande pas d'aller au-delà de nous-mêmes. Il nous demande d'y aller avec la force qu'il nous a donnée, comme Gédéon. Il nous demande aussi de regarder comme il faut quel côté qu'on va aller. Si on choisit les plaines de Sodome, moindre effort, mais faisons comme Abraham qui a choisi la colline, les rochers, puis qui a fait l'effort de marcher selon ce que Dieu disait. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour cet ensemble. Et moi, le premier, Seigneur, je te confesse que défier la loi du moindre effort, c'est quelque chose de difficile pour moi. Je te demande ton aide, Seigneur, de me saisir, Seigneur Dieu, avec ce temps que j'ai à gérer dans cette terre qui me reste, de m'aider, Seigneur, à faire tous mes efforts, à vraiment travailler sur ma personne, de ne pas me laisser aller et de marcher pour toi, Seigneur, d'être à ton écoute et te glorifier dans tout cela, Seigneur. Seigneur, je prie pour nos frères et nos sœurs qui sont partis en dehors, Seigneur, que ce soit le camp Brochet ou que ce soit le camping, Seigneur, je te prie de les bénir là où ils sont. Et sépare-nous avec ta bénédiction, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.